La grâce de notre Seigneur vous soit donnée en abondance. Amen. Lisons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre des Juges, le chapitre 13. Il était demandé que nous puissions lire tous les chapitres, mais je crois que c'est une histoire que nous connaissons très bien. Je vais m'arrêter au verset 5. Juges, chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui te plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Dans ma version, c'est écrit Manoach, c'est ça. Je ne sais pas s'il faut prononcer le CH qui est là. Et sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais n'en prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Prions le Seigneur, sans ta parole, Père éternel. Et tu nous agresses ce matin, et c'est là que tu caches tous les secrets, toutes les bénédictions pour notre vie. Gloire te soit rendue, ô Père éternel, toi qui nous bénis. Ta parole ne peut tomber au milieu de nous sans porter de fruits. Ainsi, Père, bénis chacun de nous et honore ton nom. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, la paroisse va bientôt fêter 25 ans d'existence de la couronne de vie, la chorale, la couronne de vie. 25 ans. Il y en a ceux qui ont 25 ans au milieu de nous. Vous êtes nés lorsque la couronne de vie a commencé. Ça veut dire que les enfants qui ont commencé la couronne de vie il y a 25 ans, où est-ce qu'on peut les trouver maintenant? Ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont au Kenya, ils sont en Afrique du Sud, ils servent. Et lorsqu'on a commencé couronne de vie, personne ne savait. Et certains passeront par là et vont servir. Donc ça fait 25 ans. Et le dimanche prochain, c'est une grande célébration. La paroisse nous demande donc ce matin de réfléchir sur le parent. Parce que ce grand travail est réalisé par Dieu, par les parents et par leurs enfants. Soyez-en sûrs, frères et sœurs, que les versets que les enfants chantent ici, Jésus a dit à ses disciples, « Maintenant, vous pouvez suivre ce que j'ai dit. Mais le jour vient, le Saint-Esprit viendra. Il vous rappellera chaque chose que je vous ai dit. » Le verset que ces enfants chantent ici, ça peut être passif, hein? Parfois, ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Mais le jour vient, le Saint-Esprit les rappellera chaque chose qu'ils ont chanté. Parce que ces cantiques viennent des Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, nous parlons de la consécration des parents par Dieu. Canal de bénédiction de leur progéniture. Les parents, tout parent est consacré par Dieu. Mais il paraît que Dieu nous consacre, mais nous aussi nous nous consacrons. En français, ça peut se comprendre. Tu peux dire « je me consacre ». Ça signifie quoi? Ça signifie que tu te donnes, tu te dévoues, tu investis. Se consacrer, on ne peut pas se consacrer pour un travail partiel. Quand on se consacre, ça signifie qu'on fait un travail à temps plein. Tu ne peux pas dire, je me consacre pour ce travail, mais on voit que tu travailles 30 minutes par semaine. Là, tu n'es pas consacré. Alors, les parents sont consacrés. Ils se donnent, ils se dévouent, ils s'adonnent, ils s'emploient, ils se livrent, ils investissent. Ils investissent dans les enfants. Ils sont consacrés par Dieu pour atteindre un objectif. Ce n'est pas pour rien. Dieu le met dans une mission pour atteindre un objectif. Le premier élément que nous allons apprendre ce matin, c'est que lorsque Dieu veut atteindre un objectif avec quelqu'un, avec un parent, avec vous, il se révèle en vous. C'est ça la première chose. Il se révèle aux parents. Lorsque vous traversez les Saintes Écritures, vous trouvez que Dieu s'est révélé aux parents depuis le commencement. Déjà, quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu se révèle à Adam et Ève, le futur parent. Et il leur dit, soyez féconds. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu consacre Adam et Ève et il se révèle à eux. Et quand il se révèle à un parent ou à une personne, il lui donne directement la responsabilité. Il dit clairement ce qu'il va faire. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Donc, ils savent, parce que Dieu s'est révélé à eux. Et donc, si vous traversez la Bible, vous trouverez comment Dieu se révèle aux gens et aux parents, très clairement. À Genèse, chapitre 17, Genèse, chapitre 17, le verset 15 et 16, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à ta femme le nom de Sarai, mais le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Vous voyez la révélation? D'ailleurs, au chapitre 18, au verset 18 et 19, il révèle à Abraham qu'il sera ancêtre d'une grande et puissante nation. Il sera source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Donc, lorsque Dieu veut faire un travail, une mission avec vous, il se révèle en vous. C'est ce que je suis en train de chercher. Il se révèle aux parents. Il ne se révèle pas aux enfants. Il se révèle aux parents. Et si nous prenons certains versets du Nouveau Testament, lorsque vous lisez Luc, le chapitre 1er, le verset 13, Dieu veut faire une mission avec Zacharie. Alors il se révèle à Zacharie. Il lui dit, ne crains point Zacharie. Luc chapitre 1, verset 13. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras. Ça, c'est la responsabilité. Et tu lui donneras le nom de qui? De Jean. Bon, quelqu'un peut dire, bon, mais donner le nom, est-ce que c'est une responsabilité? C'est une grande responsabilité, chers parents. Donner le nom à la fin. Vous savez comment les gens bricolent le nom aujourd'hui. Ils cherchent KTP, puis ils disent, ça, c'est le nom de la fin. Bricolage. Donc ici, le Seigneur se révèle à Zacharie et il dit, pas n'importe quel nom, on lui donnera le nom de Jean. Jusqu'à révéler le nom, vous voyez. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le verset suivant, quand vous allez au verset 58, vous remarquez que Dieu avait raison de dire ça. Parce que au verset 58, les voisins sont venus fêter. Bavoisins, Banasiki, Akama, Elisabeth, Alizar. Alors au verset 18, ses voisins apprirent que le Seigneur avait éclaté envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Ils sont venus à la fête. Le verset suivant, le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelèrent Zacharie. Munaskir, ça sont les voisins. Banajingiza mumasahani ya watu hapo. Ils disent, huu mtoto atakuwa Zacharie. Sa mère dit, ah! Il s'appellera Jean. Ils lui disent, dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'appelle Jean. Voyez le voisin. Kwenu hatia ona mtu mwenye jina yake Jean. Si c'était les familiers, peut-être de Goma ou du Nord-Kivu, ils diraient, huu mwanamke anakatala tupatie mtoto jina ya baba yake. Mnaona mwanamke wenye habana adabu. Même si Zacharie était muet, c'est ce qui est étonnant. Zacharie avait déjà dit à sa femme que l'enfant s'appellera Jean. Comment il l'a dit? Bon, il a peut-être écrit sur un papier. Même le muet se parle. La femme a dit non, cet enfant s'appellera Jean. Ce n'est pas à la femme que l'ange s'était révélé, c'était à Zacharie. Et donc, la femme défend, dit que cet enfant s'appellera Jean. Alors on dit, appelons son père. Et le père a dit, donnez-moi une tablette. Le mien a écrit, il s'appellera Jean. Tout le monde s'est étonné. Bavoisé, balignamaz. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut se révéler à quelqu'un, il va même jusqu'à dire, attention, ne donnez pas ce nom, donnez cet autre. Et c'est ce qu'on lit aussi dans le même chapitre, si vous voyez le verset 30 et 31. L'ange se révèle à Marie. Il dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Il lui donne aussi la responsabilité. Et tu lui donneras le nom de qui? De Jésus. La même chose, on la lit en Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 1er, si nous allons au verset 21. Là maintenant, Dieu se révèle à Joseph qui avait des doutes de prendre sa fiancée Marie. Il dit aussi à Joseph, tu donneras le nom à cet enfant et tu l'appelleras Jésus. Et il explique, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc j'insiste là-bas pour dire que donner le nom, ce n'est pas facile. Les parents qui sont ici peuvent témoigner. Je connais beaucoup d'enfants qui ont refusé leur nom. On les a donné le nom, c'est bien. Mais à l'âge de 15-16 ans, ils refusent. Donc, donner le nom, c'est une grande responsabilité. On peut que Jésus aussi, Dieu est aussi intéressé lorsque on donne le nom à un enfant. Et dans beaucoup d'autres versets de la Bible, lorsque vous traversez la Bible, vous trouvez que Dieu, lorsqu'il veut travailler avec quelqu'un, il se révèle à lui. Il se révèle à lui. Il vous montre ce qu'il va faire avec vous. Revenons alors à notre chapitre 13 des Juges. Le peuple d'Israël traversait un moment difficile. Un moment difficile. Soulignez ce verset-là, on dit que cela a fait 40 ans. Les Congolais ont fait combien d'années? Bon, vous pouvez dire 30 ans. Il y a d'autres qui disent 60 ans. Depuis l'indépendance, ça n'a jamais allé. 40 ans. Ils ont fait du mal devant Dieu. Ils traversaient un moment chaotique. Pendant que tout le peuple traversait un moment chaotique, un couple aussi traversait un moment chaotique. Ouais. Et le problème du couple, c'est que ils n'avaient pas d'enfants. Donc les problèmes sont à des dimensions différentes. Il y a le problème national, mais il y a aussi des problèmes familiaux. Oui, pendant qu'ils traversent un moment difficile de 40 ans, ça c'est la nation. Mais pendant ce temps, un couple aussi traverse un moment difficile de stérilité. Alors, Dieu cherche la solution du problème chaotique de la nation à travers un couple qui traverse aussi un moment difficile de chaos. Et donc, c'est ça Dieu. Et alors, le deuxième point que nous pouvons apprendre ce matin, c'est que Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'a pas de préférence. Lorsqu'il veut choisir quelqu'un, il peut choisir quelqu'un à Gomaville pour sauver toute l'Église, pour sauver toute la nation. Le couple de Manoah n'est pas le plus bon. Il n'est pas le plus connu. Il vivait simplement à Tzoréa. Ils n'avaient jamais un plan. Ils étaient dans une difficulté. Ça veut dire, en fait, ils n'étaient pas différents de ceux-là à qui le Seigneur s'est révélé. Ils n'étaient pas différents d'Abraham, de Zacharie, de Marie, de Joseph. Le Seigneur s'est révélé à eux. Bon, ce que je voudrais que vous puissiez connaître ici, c'est que le Seigneur, donc, se révèle sans favoritisme. À qui il veut vous rappeler qu'il s'est révélé à une servante, à Hagar, qui a été renvoyée. Et quand il errait dans le désert, le Seigneur s'est révélé à lui. On peut se dire, ah, même à celle-là, le Seigneur s'est révélé à elle. Et même à Hagar. Et ce n'est pas nécessaire qu'on vous envoie un ange pour dire, bon, maintenant le Seigneur se révèle à nous. Parce que vous savez que Joseph, que nous lisons à Genèse, c'est lui qui a sauvé les Hébreux, n'est-ce pas? Bon, mais son père Jacob n'était pas informé. Il n'a pas reçu un ange. Même Joseph n'a pas reçu un ange. D'ailleurs, son père Jacob pensait que Joseph est déjà décédé. Voyez, donc il n'y a pas question d'ange. Le Seigneur se révèle comme il veut. Et vous savez que Dieu a sauvé le peuple de l'esclavagisme en Égypte à travers Moïse. Si je pose la question, et son père s'appelait qui? Ce sont des rares gens qui peuvent connaître le nom d'Amram et de Jochabed, sa mère. Donc, vous n'allez pas attendre qu'il y ait un ange pour qu'on dise, bon, alors il se révèle à nous. Donc, il peut prendre cet enfant-là que tu as dans tes mains et il l'utilise pour sauver la nation. Et tu vas te dire, ah, je n'avais jamais pensé que c'est Moïse que nous avons gardé au bord du fleuve Nil qui va sauver la nation. J'avais pensé que c'est Joseph. D'ailleurs, moi, je pensais qu'il est décédé. Voici ce que Jacob peut dire. Donc, il peut se révéler sans nécessairement envoyer un ange et qu'on lui dise, bon, c'était peu public et dramatique. Un autre élément que nous pouvons tirer, c'est que dans le choix de Dieu, il choisit tout le monde. Quand vous traversez le livre des Juges, vous trouvez qu'il choisit des hommes, il choisit des femmes. Ici, c'est une histoire de la femme, n'est-ce pas? La femme de Manoah, pas le mari. On va y arriver. Il choisit les hommes, il choisit les femmes, il choisit les jeunes, il choisit les enfants. On ne peut pas savoir comment il fait ce choix. Alors, il choisit un homme qui s'appelle Gédéon. Et quand vous lisez au chapitre 6, le verset 15, voici comment Gédéon le choisit, comment il réagit. Il dit, ah, c'est moi que vous choisissez. Mais mon clan est le plus faible de Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. C'est ça le premier choix. Il y a beaucoup de juges que vous lisez. Mais voici comment quelqu'un réagit, qui a été choisi par Dieu. Et il dit, mais mon clan est le plus faible et moi je suis le plus petit. Alors, en chapitre 11, il choisit un guerrier qu'on appelle Jephté. Et Jephté était un fils d'une prostituée. C'est ça ce qui est écrit au chapitre 11, le verset 1. Jephté était un fils de prostituée. La Bible que j'ai lue, il dit, et il était un fils d'un certain. J'ai souligné un certain. J'ai cherché la signification de ce que ça peut signifier à Kiswahili de Birere. Ça pouvait signifier Alikuwa mtoto wa mtu mmoja hivi. Ça, c'est Jephté qui a été choisi comme juge. Il ne s'attendait pas. Non, il n'avait pas tous les critères, il ne s'attendait pas. La Sebeka a compris cet élément ici. C'est que vous savez que quand nous recevons les gens, les enfants à la dédicace, nous recevons tous les enfants. Nous recevons tous les enfants. Pourvu que celui qui l'amène soit un communiant
à la Sainte-Seine.
Mais ça ne doit pas être une personne qui ne s'est jamais repentie.
La Sebeka, en fait, a compris qu'il y a beaucoup de Jephté dans la communauté et qui servent très bien lorsque vous les encadrez. Il y a beaucoup de pasteurs Jephté, il y a beaucoup d'anciens d'église Jephté, il y a beaucoup dans la chorale de Jephté. Donc, voilà comment Dieu choisit. Il choisit Jephté, le fils du prostitué. Donc, il ne faut pas négliger quelqu'un. Et alors, c'est parce que ça peut être le choix de Dieu. Et alors, Dieu choisit une femme qui s'appelle Déborah. Une femme qui devient le pilier de la victoire. On peut que Barak, quand vous lisez au chapitre 8, Barak dit, « Si tu viens avec moi, alors j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Une femme qui fait un grand travail de juge. Bon, si on pouvait demander aux hommes, ils diraient, « Ah, bah, na moussitie, moussitie, oule, moussitie, foulane. » Mais quand Dieu choisit, il choisit dans sa souveraineté. C'est Déborah qui a été choisie. Maintenant ici, le texte que nous avons lu, ça parle d'un enfant. N'est-ce pas donc? Le peuple traverse un moment chaotique de 40 ans. Alors Dieu cherche la solution, il envoie un enfant. Ici, il n'a pas demandé à ses parents de lui donner le nom. Il lui donne un très bon nom, Samson, le soleil. Pour venir résoudre un problème difficile qui n'ont pas pu résoudre pendant 40 ans. Et Dieu se comporte comme ça plusieurs fois. Lorsqu'il veut commencer une grande nation à travers Abraham, il envoie un petit Isaac qui naît tardivement. C'est celui-là qui commence la grande nation. Vous voyez, il fait des choses qu'on ne s'attend pas. Lorsque les enfants d'Israël ont fait 400 ans d'esclavagisme, il envoie un Moïse qui naît dans des conditions où on ne peut pas penser que c'est lui que Dieu a envoyé. Donc, dans des conditions où on peut dire, « Moi, tu as coupé, tout à coup, je joue avec Moïse. » Il envoie un Moïse. Lorsque Dieu veut faire un grand réveil en Israël, il envoie un Samuel. Il envoie un Samuel chez Anne et Elkanah. Lorsque les Syriens assiègent Israël, alors Dieu dit au prophète, il dit, bon, ça ne va pas arriver ça. Mais il dit à Esaïe, quand vous lisez Esaïe chapitre 7, le verset 14, il dit ceci, voilà, je vais vous donner la stratégie pour voir comment cela va arriver. Alors je vous lis le verset. Le Seigneur lui-même donnera un signe. Et voici, la jeune fille deviendra enceinte. Ça, c'est pour résoudre le problème. Hein? La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Quelqu'un peut dire, mais Dieu joue avec nous. Nous, les gens nous assiègent. Nous cherchons quelqu'un qui doit les battre aujourd'hui. Et il répond, il dit, et la jeune fille sera enceinte. Donc il envoie un enfant. C'est la même situation en fait quand Israël attendait le Messie qui doit venir dans la gloire pour les aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un petit enfant qui est né à Bethléem et les gens ne savaient pas, c'était la nuit. On dormait profondément dans le péché. Si les anges n'avaient pas dit « il est né à Bethléem », personne ne saura que celui qui vient libérer vient de naître aujourd'hui la nuit. Donc, quand Dieu vient pour libérer les gens, en fait, il utilise quelle stratégie? Il envoie. Quand les gens entendent le Messie dans la gloire, il envoie quelqu'un pour lequel on peut douter que c'est lui. Voici ce qu'il a fait lorsqu'il a commencé à enseigner Jésus. En Matthieu chapitre 5, verset 44, le Messie commence les enseignements. Il dit ceci, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est ça le Messie qui vient nous sauver. Donc voilà comment Dieu vient sauver son peuple d'une manière où les gens ne s'imaginent pas et ne s'y attendent pas. Cela veut dire que les petits-enfants que nous avons dans nos mains, là, les petits-enfants là qui sont dans nos mains, qui têtent toute la nuit, il faut du bruit. Ils sont vulnérables au froid et à la poussière.
Ce sont ces gens-là que Dieu envoie. Dieu a besoin des parents qui sont conscients, avec qui il veut faire la mission. Des parents consacrés, qui deviennent le canal de bénédiction pour ces vulnérables que nous avons en main, qui viennent pour sauver la nation. Cette idée-là nous rappelle ce qui est écrit, ce que Paul a dit aux Corinthiens. Si vous lisez, je vous lis ce verset sans commentaire et on va passer au dernier point. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25-29. Voici ce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Il dit, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. » C'est ça. Les forts, non. Plutôt un enfant va naître pour que vous puissiez être sauvés dans votre situation. Dieu n'a pas de favoritisme. Attendez-vous que Dieu peut vous choisir. Dieu peut choisir un petit enfant. Dieu peut choisir une personne négligeable au milieu de nous pour diriger cette église, pour diriger ce pays. Tirons quelques leçons et finissons cette prédication. Les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Manoah et sa femme. D'abord, la première chose, dans ce couple, Dieu se révèle à la femme et non pas à l'homme. Ça, c'est la première grande leçon qu'il faut tirer d'ici. Dieu se révèle, comme nous l'avons déjà dit, comme il le veut. Il est souverain. On ne peut pas se poser la question, pourquoi pas à l'homme? Mais à la femme, oui. C'est vrai que quand Isaac est né, il a parlé d'abord à Abraham. Mais quand Samuel est né, il y avait la femme, Elkana était dans des aventures. Ouais. Quand Zacharie est né, quand Jean le Baptiste est né, c'était Zacharie. Mais quand Jésus est né, c'était Marie. Oui, on s'est révélé à Joseph parce qu'il était dans les doutes. Mais le message est venu à Marie. Donc Dieu est souverain. Lorsqu'il veut se révéler à quelqu'un dans le couple, ce n'est pas nécessairement au père ou au mari. Ça peut venir par la femme. Dieu est libre et donc celui qui veut, la femme peut conduire, peut recevoir la révélation. D'ailleurs, vous voyez que même quand il se révèle pour la deuxième fois, l'ange, dans le texte que nous avons lu, si vous suivez le texte, s'il se révèle pour la deuxième fois, c'est toujours à la femme. Et c'est la femme qui va informer le mari. Et le mari suit la femme pour aller voir où se trouve l'ange. Ça signifie que les femmes peuvent conduire le mari au salut. Oui, ils peuvent amener son mari là où se trouve Dieu. Oui, c'est ça. Donc, Manoah a suivi la femme. Pourquoi est-ce que l'ange ne savait pas où se trouvait Manoah? Il savait, mais il s'est révélé à la femme. Et l'homme a suivi la femme pour aller là où il se trouve la révélation. Donc, c'est une grande leçon, une première leçon que lorsque Dieu se révèle, il n'y a pas de choix. Il peut se révéler à qui il veut. Mais ce qui est bon, c'est que quand Dieu se révèle à la femme ne cache pas la révélation. Ouais, la femme va dire tout à son mari. Comme nous avons lu aussi, même le muet, Zacharie a raconté tout à sa femme, Élisabeth. Donc, c'est ce qui est aussi un élément à tirer. Deuxième élément, c'est que lorsque la révélation arrive à l'un de nous, il ne faut pas la cacher, il faut la partager avec l'autre, dans le couple. Mais un autre élément très intéressant, c'est que comment le mari réagit lorsqu'on lui raconte l'histoire. Là, c'est au verset 8. Lorsqu'on raconte l'histoire au mari, la réaction, c'est une grande prière. Et la prière est au verset 8. Il dit, « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé
viennent encore vers nous. Soulignez-nous, vers nous, pas vers moi. Parce que le mari maintenant s'associe à la révélation qui a été faite à la femme. Et il continue, dit, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour la femme qui va naître. Et donc, on trouve ici quelqu'un qui est disposé à recevoir l'enseignement. Bon, il a déjà suivi l'enseignement. Si vous suivez le texte, l'ange n'a pas ajouté. L'ange a dit, tu feras ce que j'ai dit à la femme. C'est-à-dire, le mari était disposé à recevoir l'enseignement. Alors, il demande à l'ange de revenir. Et l'ange est revenu. Mais remarquez un autre élément aussi. Un autre élément, c'est que l'enfant qui va naître sera consacré totalement à Dieu. Il faut le dire clairement, c'est que cet enfant n'appartient pas à Manoah et à sa femme. C'est un enfant qui appartient à Dieu, totalement à Dieu. Donc, Manoah ici s'est vesti dans un plan, sachant que l'enfant qui va naître, bon, il va naître chez moi, mais il appartient à Dieu. Et cela est arrivé, vous savez que cela est arrivé lorsque Jésus est resté, bon, où il est perdu, dans le temple, et que Marie et Joseph le cherchent dans toutes les familles, toute la journée. Ils disent, rentrons à Jérusalem. Ils les trouvent en train de parler aux leaders religieux. Alors ils rentrent en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Nous t'avons cherché partout dans les familles, on ne t'a pas trouvé. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, ah, pourquoi vous m'avez cherché? Vous ne savez pas que je dois travailler pour mon père. Ça signifie quoi? Ça signifie, si c'était une famille de Goma, un parent lui dirait, « Mana qu'on a ce machin, il y a tout comme un ziyako. » Et c'était ça, c'était vrai. Jésus est né dans la famille de Joseph et Marie, mais ce n'était pas leur enfant. C'était un enfant consacré totalement à Dieu. Et c'est ça que nous devons mettre en tête lorsque nous avons des enfants. Ces enfants-là ne nous appartiennent pas. Ces enfants-là appartiennent à Dieu. Dieu a besoin de parents consacrés, éveillés, qui le savent, qui investissent dans ces enfants-là, pas pour des intérêts égoïstes, mais pour que ces enfants-là, une fois investis en eux, ils travaillent pour l'Église, ils travaillent pour le pays, ils travaillent pour la société. Lorsque vous n'êtes pas conscient que ces enfants ne t'appartiennent pas, vous serez déçus. Bientôt, vous serez dessus. Mais écrivez dans votre tête que ces enfants-là appartiennent à Dieu. Et donc, investissez, consacrez-vous, travaillez durement pour que ces enfants servent Dieu, servent l'Église, servent le pays, servent le voisin, servent la société. Ce qui vient, en fait, montre clairement, c'est ça. Parce que lorsque vous lisez le verset 4, surtout 5, « Maintenant, prends garde, 4. » Ne bois ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu affaîntras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa main. Et il sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bon, un parent dirait, ma condition est quoi mingi? Mutoto ne wangu, ao ne wako. Laissez-moi libre d'élever mon enfant comme je le veux. Mais ici, les conditions viennent de Dieu. Pas ceci, pas cela. On ne veut pas ceci. Cela veut dire qu'un parent consacré à Dieu, pour bénir ses enfants, pour devenir le canal de bénédiction aux enfants, il se sacrifie. Il a beaucoup de sacrifices. Il a beaucoup d'abstinence. Ça, c'est l'abstinence, n'est-ce pas? Ne mange pas, ne bois pas, ne rase pas n'importe comment ton enfant. Ça vient du ciel. Aujourd'hui, je sais qu'on décore les bébés, mais est-ce que c'est l'ange qui vous a demandé de décorer votre bébé comme ça? Oui, l'ange a dit à la femme, il dit non, même pas de rasoir sur sa tête. Cet enfant sera consacré à Dieu. Donc, Si vous voulez être un parent qui deviendra canal de bénédiction à tes enfants, il y a beaucoup d'abstinence. Je souligne ça, il y a beaucoup d'abstinence. Ne faites pas. Si on était dans une étude biblique, on allait s'imaginer ce qu'on ne peut plus faire pour que nous devenions des parents consacrés. Je peux vous citer quelques-uns.
Ouais. N'expose pas vos enfants à n'importe quel canal de télévision. Pas à n'importe quels médias sociaux. Ne les inscris pas dans n'importe quelle école. Etc.
Oui, j'étais avec des amis qui disent etc. signifie end of thinking capacity. Donc la capacité de penser est terminée. Etc. Mais un parent consacré a beaucoup d'abstinence pour qu'il puisse être un canal de bénédiction. Il y en a trop, mais laissez-moi finir par le dernier élément. Le dernier élément, c'est que quand vous voyez ce couple de Manon et sa femme, on voit quand même que la femme est un chrétien, bon, avec entre guillemets, mature. La femme est chrétien mature. Le mari a beaucoup de soucis. Le mari avait besoin de cette femme, en fait, pour faire un couple auquel le Seigneur peut donner la miséricorde. Vous pouvez aller, quand vous aurez le temps, lire le verset 20-22, que lorsqu'il donne l'holocauste à cet ange, la Bible dit que l'ange est monté dans la fumée et il a disparu. Alors Manon a dit, « Oh, tout à coup, nous allons mourir. Nous allons mourir. » Et c'est devenu sérieux, on va mourir, tout à coup, tout à coup. Bon, peut-être que Manon connaissait ce qui est écrit en Exode 33, ce que Dieu avait dit à Moïse, dit, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut voir mon visage et vivre. » Il y en a déjà qu'on peut associer à une mission, mais qui ne sont pas matures. Ah, ils vont soulever des questions terribles. Ils vont même lire la Bible. Non, vous voyez, la Bible dit que « Tu ne pourras pas voir mon visage et vivre. » Tout me honne, tout à coup. C'est ça. Mais heureusement, la femme, il y a une femme mature qui dit « Non, non, mon mari, si l'Éternel il voulait nous faire mourir, il n'aurait pas pris dénommer l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareilles choses. L'Église a besoin des femmes et des hommes matures, comme la femme de Manoah. Sinon, les gens posent des questions et ils lisent les Saintes Écritures et ils nous embrouillent avec des questions pour des questions d'immaturité spirituelle. Chers frères et sœurs, c'est ça la parole que l'Éternel veut nous donner ce matin. Dieu a besoin de parents consacrés pour devenir le canal de bénédiction à leurs enfants. Consacrés pour se consacrer à temps plein à leurs enfants. Il n'a pas de favoritisme. Il se révèle à qui il veut. Il s'est révélé par grâce à un couple qui vivait simplement à Tsorea de Manoa et sa femme. Il peut se révéler à nous ici à Gomaville et faire de nous des parents, des sauveurs de cette église, de cette paroisse, de ce pays et de la société actuelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous disons merci à Dieu pour cette révélation qui vient de nous montrer encore, qui vient de nous chuchoter aujourd'hui. Que chacun fasse cette bénédiction, une prière pour que le Seigneur l'aide à bien se consacrer pour sa gloire, pour le bien de nos enfants.